Deux prisons toujours bloquées au lendemain de l'agression d'un gardien par un détenu radicalisé à Condé-sur-Sarthe. Des surveillants pénitentiaires ont manifesté devant leurs établissements pour demander de meilleures conditions de travail. Leurs deux collègues ont été gravement blessés par Michael Chiolo, détenu de droit commun qui n'avait pas été identifié comme élément dangereux. Comment a-t-il pu se retrancher avec sa compagne et se servir d'un couteau en céramique ? Laurélie Carif, beaucoup de questions en suspens.
Oui, jusqu'ici, aucun signe d'un passage à l'acte violent imminent n'avait été détecté chez Michael Chiolo. Pour ce qui est du couteau, c'est la règle. Les visiteurs ne sont pas systématiquement fouillés à l'entrée des prisons.
Comment traiter les détenus radicalisés ? On y revient avec vous tout à l'heure et avec notre invité Damien Pellen, premier secrétaire du syndicat national des directeurs de prison. Carlos Ghosn, en liberté ou presque, l'ex-directeur de Renault-Nissan est sorti de prison moyennant caution, mais il reste au Japon en résidence surveillée en attendant son procès qui n'aura pas lieu avant plusieurs mois. 4 à 500 millions pour le budget de l'État, c'est ce que devrait rapporter la taxe sur les GAFA, les géants du numérique, taxe présentée ce matin en Conseil des ministres, taxe française dont le gouvernement espère maintenant qu'elle sera adoptée plus tard par l'Europe. Dans ce journal également, non, le ROR, vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, n'augmente pas les risques d'autisme. Une nouvelle étude réalisée sur 10 ans au Danemark le confirme. Le WWF accusé de payer des paramilitaires dans sa lutte contre le braconnage en Asie et en Afrique. Des paramilitaires qui torturent et qui tuent. PSG Manchester ce soir au Parc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ultra favoris grâce notamment à leur phénomène Mbappé qui subjugue même son entraîneur Thomas Tuchel.
En ce moment, il est un des meilleurs attaquants du monde. Sa personnalité est extrêmement démarquée chaque entraînement, chaque match.
C'est mercredi, le cinéma, avec Eva Bétan au programme tout à l'heure. Un beau film venu de Singapour. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
7 départements en vigilance orange au vent violent.
Des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège, jusqu'à 130 à 150 km à l'heure en montagne, ponctuellement plus cet après-midi. 90 à 120 km à l'heure sur la Loire, le Rhône, l'Isère. Alors de la pluie sur les Cévennes, mais aussi sur l'ouest, jusqu'à l'Aquitaine et au Luxembourg. En fin de journée, orage et grêle possible sur l'Aquitaine avec du vent fort, soyez prudents.
Le bulletin complet, bien sûr. En fin de journal.
France Inter.
18 établissements pénitentiaires ont donc été bloqués ce matin par les surveillants qui sont ensuite pour la plupart retournés au travail. Au lendemain de l'agression de Condé-sur-Sarthe, deux gardiens gravement blessés par un détenu radicalisé. Les surveillants ont refusé de prendre leur service pour marquer le coup, pour réclamer plus de moyens et surtout de meilleurs salaires qui permettraient de mieux recruter. Delphine Evenou, vous êtes devant la prison de Condé-sur-Sarthe où le personnel était ce matin évidemment sous le choc.
Oui, car ils le disent, hein, on sait que ça peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous. David est moniteur de sport. Hier, avec sa supérieure, c'est lui qui a apporté les premiers secours à ses collègues agressés.
On arrive, on regarde, il y avait tellement de blessures sur le corps. Ma lieutenant tient le bras, moi je fais un carreau, un point d'appui, on déchire le t-shirt, on passe au relais, on cherche les ciseaux, voilà tout ce qu'on peut. Les collègues ont passé près de la mort. Moi, je peux vous dire, j'étais là, j'ai vu. C'est vraiment, ils ont passé vraiment près de la mort.
Le trentenaire tremble encore, d'autant qu'il a lui-même été agressé ici par un détenu il y a quelques années. Un sentiment d'insécurité que partagent nombre de ses collègues comme Jennifer.
Ça fait, disons, un an qu'on demande à avoir plus de moyens humains, plus de moyens matériels qu'on nous promet mais qu'on ne nous donne pas. Ne serait-ce que les gilets pare-lames qui devraient être pour tout le monde. Malheureusement, on n'est pas doté de ça. On n'a rien, hein. Faut savoir aujourd'hui qu'on n'a rien, on n'a qu'un sifflet.
Des bâtons télescopiques, des tasers, les surveillants veulent avoir de quoi se défendre, surtout dans un contexte de problèmes d'effectifs. Il manque 47 agents à Condé-sur-Sarthe. Toute la matinée, la centaine de surveillants mobilisés est donc restée inflexible sur le blocage de l'établissement, même face au commissaire.
Il faut qu'on puisse faire rentrer les repas de midi de ce soir. Donc ce que je vous demande, c'est de laisser passer la logistique et la police.
Et seul un policier a pu rentrer en fin de matinée dans l'établissement pénitentiaire pour récupérer les bandes vidéo pour les besoins de l'enquête sur l'agression d'hier.
Delphine Evenou à Condé-sur-Sarthe avec Laurent Lucas. Cette agression d'hier a été violente. Les deux gardiens, dont les jours ne sont pas en danger, ont été très gravement blessés au thorax pour l'un, au visage pour l'autre. Leur agresseur, Michael Chiolo, a utilisé un couteau en céramique qui a pu lui être apporté par sa compagne qui, elle, a été tuée dans l'assaut du raid. Tous les les deux s'étaient retranchés pendant près de 10 heures dans l'unité de vie familiale de la prison. Le parquet antiterroriste a été chargé de l'enquête car c'est au cri d'Allah Akbar que le détenu s'est jeté sur ses gardiens. Un détenu de droit commun, âgé de 27 ans, qui se serait donc radicalisé en prison. Il semble qu'il ait voulu venger par son geste la mort de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre. Chekat qui l'aurait côtoyé en prison à Épinal. L'Aurélie Carive, ce qui pose un certain nombre de questions quant à son parcours pénitentiaire. Première de ces questions, qu'est-il prévu précisément pour ce type de détenu radicalisé?
Alors même si Michael Queloz a été condamné pour apologie du terrorisme en 2015 pour avoir mimé l'attentat du Bataclan, jusqu'à hier il était considéré comme un détenu de droit commun puisqu'il purgeait surtout une peine de 30 ans de réclusion pour une affaire de séquestration suivie de mort, un crime crapuleux sans aucun lien avec l'islam radical. Jusqu'à cette semaine, il n'avait montré, semble-t-il, aucun signe de passage à l'acte violent ou imminent. Il ne faisait pas de vagues en détention, mais il fréquentait des détenus liés au terrorisme islamique. Dans cette prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe, Michael Queloz était incarcéré dans la partie ordinaire du quartier de la Maison Centrale et pas à l'isolement ni dans le quartier d'évaluation de la radicalisation, même si sa radicalité devait être, nous dit-on, évaluée au printemps. C'est aussi parce qu'il avait un comportement jugé normal qu'il a eu accès à l'unité de vie familiale, le droit de recevoir sa compagne dans un petit appartement meublé, séparé de la détention. C'est là qu'il a agressé hier les deux surveillants.
Alors autre question sur ce couteau en céramique. Comment a-t-il pu entrer? Les visiteurs ne sont-ils pas fouillés?
Non, pas systématiquement, seulement quand il y a un doute. Le portique de sécurité qui sonne par exemple, ou bien un comportement suspect. Dans ce cas, si le visiteur refuse de se soumettre à une fouille, on peut lui refuser l'entrée de la prison. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, la céramique ne fait pas sonner les détecteurs.
Alors trois personnes sont actuellement en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Deux co-détenus de Michael Queloz et une femme qui fait partie de son entourage, sans plus de précision pour l'instant. Invité de ce journal, Damien Pellen, premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Bonjour.
Bonjour.
Une réaction sur ce que vient de dire l'Aurélie Carive sur ces fouilles qui ne sont pas systématiques?
Les fouilles ne sont pas systématiques parce que le cadre légal ne nous permet pas de pratiquer des fouilles sur les visiteurs de manière systématique.
Mais ce qui peut paraître quand même très, très étonnant, surtout dans une prison qui est l'une des plus sécurisées de France?
Alors, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est la règle dans tous les établissements. Quand on parle de prison sécurisée, il faut bien comprendre qu'on y incarcère des personnes et que le fait d'être dans un établissement sécurisé ne vient pas amoindrir la dangerosité des gens. La prison est sécurisée pour éviter ou retarder les évasions et toute autre forme de passage à l'acte, des mouvements collectifs ou autres. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on met une personne dans un établissement sécurisé, ses capacités violentes vont être réduites.
Vous avez d'autres exemples? On sait que beaucoup de téléphones portables, par exemple, arrivent à entrer en prison.
Oui, des téléphones portables, mais au-delà du couteau en céramique, je me souviens de certaines agressions qui ont eu lieu dans des établissements avec un simple stylo. Donc on peut concevoir de durcir, on va dire, les contrôles aux entrées des établissements. Quand une personne est déterminée pour avoir un acte violent, elle va se saisir des objets qui sont dans son quotidien. Donc focaliser sur le couteau, c'est peut-être pas forcément la bonne entrée pour sécuriser les personnels qui travaillent dans les établissements.
Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de personnel, enfin de parité homme-femme, puisqu'en l'occurrence c'est une femme qui aurait entré le couteau, il faut des femmes pour la fouiller?
Oui, il faut des femmes pour la fouiller. Alors les établissements pénitentiaires qui accueillent des hommes détenus ont à la fois des personnels féminins et des personnels masculins. Les personnels féminins sont en nombre limité parce qu'une femme ne peut pas palper ou fouiller un homme, et ça se comprend. Donc c'est pas un problème en soi que d'avoir un nombre limité de femmes pour palper des visiteurs qui sont quand même beaucoup moins importants que le nombre de détenus qu'on reçoit.
À propos des questions soulevées par les grévistes sur les recrutements qui sont difficiles parce que les salaires sont trop bas, vous adhérez?
Vous êtes d'accord? Alors, les salaires trop bas, je pense que c'est une question qui est beaucoup plus générale à la fonction publique qu'au personnel de surveillance. Je dis pas que je dis que les surveillants sont bien payés, mal payés ou bien payés. Je dis juste qu'il y a une revalorisation des salaires dans la fonction publique qui n'est pas faite depuis des années. Donc là, il y a un problème au niveau politique. La seconde partie de ma réponse sur les recrutements, il y a un déficit de recrutement au sein de l'administration pénitentiaire parce que, mais quels que soient les postes occupés, il y a une image négative, une méconnaissance de ce qu'on peut faire en détention ou au sein de l'administration pénitentiaire. Et ça, moi, je suis pas, je fais pas de publicité pour l'administration pénitentiaire, je suis pas un communicant. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que nos professions, quelles qu'elles soient, n'attirent pas. Et encore moins quand on voit à quoi sont confrontés les surveillants, malheureusement, dans leur quotidien, certes de manière exceptionnelle comme ça s'est déroulé hier, mais aussi de manière quotidienne, puisqu'il y a forcément des crispations entre les personnes détenues et les personnels de surveillance.
Et ce manque
c'est pas un métier facile.
Et ce manque de matériel dont parlait également un gréviste tout à l'heure, le manque de gilets pare-lames par exemple.
Alors les gilets pare-lames, c'est un protocole qui a été adopté, une décision qui a été prise en janvier 2018. Nous attendons les livraisons qui doivent se déployer dans tous les établissements de France. Pour le moment, je crois qu'il y a quelques établissements qui vont en avoir, mais ça n'a pas été développé de manière générale. Donc ça, c'est un moyen de se prémunir et c'est plutôt positif. Mais quand on parle de taser et autres, surdoter les gens en matériel ne viendra pas empêcher un passage à l'acte. Là, je pense qu'on c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, où on se prémunit avec plein de matériel différent, sauf qu'une personne déterminée et qui veut passer à l'acte passera à l'acte nécessairement.
La seule vraie défense, c'est d'arriver à mesurer la dangerosité d'un détenu. C'est le renseignement pénitentiaire. Est-ce qu'il est vraiment au point?
Le renseignement pénitentiaire commence à être au point, sauf que, ou est au point, ça, j'en suis pas quasi persuadé, mais c'est sur la bonne voie. Par contre, une chose est sûre, c'est le lien entre le renseignement pénitentiaire et les métiers opérationnels sur les prises en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le renseignement pénitentiaire qui est dans un couloir, qui fait du renseignement, comme le ministère de l'Intérieur, et de l'autre côté, les personnes de l'administration pénitentiaire qui prennent en charge au quotidien les détenus. Et le lien entre les deux est parfois difficile.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas informé?
On peut ne pas être informé de tout.
Damien Pellen, premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 13h. Il est sorti de prison, lui, pour Carlos Ghosn au Japon. C'est la fin du cauchemar. Après plus de 100 jours de détention, l'ex-patron de Renault-Nissan a été libéré ce matin. Pas totalement, il reste en résidence surveillée, mais sans bracelet et sans obligation de pointer tous les jours. Libéré moyennant caution de 8 millions d'euros, il doit maintenant préparer sa défense et attendre au Japon son procès pour malversation, un procès qui n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Karine Nishimura-Poupée, vous êtes à Tokyo. Sa sortie de prison ce matin, c'est l'image du jour au Japon.
Ah, spectaculaire cette sortie de prison. Casquette bleue, masque sanitaire blanc, lunettes, bleu de travail. C'est une tenue totalement improbable dans laquelle est apparu Carlos Ghosn. Alors tous les journalistes étaient aux aguets depuis des heures, hein, perchés sur des toits, perchés sur des échelles aux abords de la prison. Et quand il est apparu, ben, on a un peu eu de mal à réaliser que c'était lui. Mais la démarche et le regard unique nous l'ont bien prouvé. Alors il s'est immédiatement engouffré dans une fourgonnette banalisée qui était fourni par ses avocats. Il a échappé aux caméras de la sorte, mais pas aux hélicoptères des télévisions japonaises qui ont suivi son parcours jusqu'au bureau d'un de ses avocats qui était lui aussi déguisé.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il pourra s'exprimer et dans quelles conditions va-t-il pouvoir préparer son procès?
Alors, il n'a pas parlé immédiatement, mais il devrait donner une conférence de presse rapidement, car il lui tarde évidemment de clamer haut et fort son innocence et puis de se défendre avec la vigueur qu'on lui connaît. Son épouse, Carole, et une de ses filles sont à Tokyo. Une maison a été louée pour les héberger, mais on sait déjà qu'il s'est exprimé pour donner quelques réticences face aux conditions de semi-liberté qui lui sont imposées. Vous l'avez dit, hein, il va être sous surveillance. Il devra par exemple se rendre chez son avocat pour utiliser un ordinateur ordinateur et son smartphone ne lui permettra pas de se connecter à Internet. Et c'est son avocat qui va devoir servir aussi de gardien pour s'assurer que toutes les règles qui lui sont imposées sont bien respectées avant son procès, effectivement dans quelques mois.
Karine Nishimura, poupée à Tokyo, en rappelant que Carlos Ghosn, accusé d'abus de confiance aggravé et d'avoir minimisé ses revenus, risque jusqu'à 15 ans de prison.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decaen.
C'est donc une taxe sur les GAFA franco-françaises qui sera mise en place dans l'Hexagone en attendant que l'Europe ou l'OCDE se décide. Le gouvernement français prend les devants. Comme il l'avait annoncé, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a présenté au Conseil des ministres ce matin son projet de loi de taxation des géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon. Une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé en France, rétroactive au 1er janvier et dont la recette est estimée entre 4 et 500 millions d'euros. Bruno Le Maire au micro de Sarah Lemoine.
Les géants du numérique, ceux qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique mondial et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique en France, seront taxés à compter du 1er janvier 2019. C'est une taxe de 3% qui portera exclusivement sur leur chiffre d'affaires numérique, notamment tout ce qui est lié à la publicité, et ça permettra de rétablir de la justice fiscale. Parce qu'aujourd'hui, les plus grandes entreprises du numérique, celles qui font le plus de profits, paye 14 points d'impôt en moins que n'importe quelle autre entreprise en France. Nous voulons rétablir de l'efficacité fiscale, parce que je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on va financer nos crèches, nos hôpitaux, nos collèges et nos services publics si on ne va pas chercher la valeur là où elle se trouve. Je souhaite qu'on se rassemble tous et que la France, qui a ouvert la voie, continue à se battre pour que d'ici la fin de l'année, il y ait une position commune au niveau de tous les États développés de la planète sur une taxation du numérique.
C'est un pansement sur une jambe de bois, cette taxe GAFA pour Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise aux européennes. Elle était ce matin l'invitée de France Inter. Pour elle, il faut aller beaucoup plus loin, lister les paradis fiscaux et changer les règles de l'impôt sur les sociétés. En attendant, l'idée de départ de cette taxe, c'était d'en faire une taxation européenne pour laquelle la France plaidait d'ailleurs depuis de longs mois, mais sans succès. Il est toujours compliqué de se mettre d'accord à 28, mais il s'en est fallu de peu. Cette fois, Louise Baudet, beaucoup de nos voisins étaient d'accord.
Oui, certains mettent eux-mêmes en place une taxe similaire. L'Espagne, dès cette année, ainsi que l'Italie, pionnière en la matière. Sa web tax, née en 2014, a été depuis abandonnée, mais elle est aujourd'hui réactivée sur le modèle, là aussi, du projet défendu par la Commission européenne. L'Autriche vient d'annoncer une taxation du même ordre pour l'an prochain et la Belgique y réfléchit. Quant au Royaume-Uni, il taxera à hauteur de 2% le chiffre d'affaires des entreprises numériques à partir d'avril 2020.
Alors voilà pour les pro-taxes, qui sont les anti.
L'Irlande, tout d'abord championne de l'attractivité fiscale, elle taxe les bénéfices à hauteur de 12,5% contre 33% en France. Une aubaine pour les grands groupes américains, très présents aussi et pour les mêmes raisons aux Pays-Bas. Sont également récalcitrants le Danemark, la Finlande et la Suède, championne de l'impôt pourtant, mais très attachée à son indépendance fiscale. Surtout, ses start-up florissantes comme Skype ou Spotify y exercent un lobbying très efficace. Et son économie fortement exportatrice craint les représailles américaines, tout comme l'Allemagne, très attentive aux intérêts de son industrie automobile. Outre-Rhin, on plaide prudemment pour une action internationale coordonnée.
Et on espère maintenant un accord international au sein de l'OCDE d'ici 2020. En tout cas, Bruno Le Maire veut y croire. Non, les pompiers volontaires ne sont pas des travailleurs comme les autres, en tout cas en France, où ils représentent 80% des effectifs. Et c'est un modèle que menace une directive européenne sur le temps de travail, directive datant de 2003, que les pompiers de France, mais aussi d'Allemagne et de Suède, appellent à réviser ou à compléter, au risque de voir leur statut disparaître. Ils interpellent aujourd'hui les candidats aux européennes. Mathilde Dehimy.
Un pompier volontaire et d'astreinte de nuit chez lui, est-il un travailleur comme les autres? À cette question posée par un pompier belge, la Cour européenne de justice a répondu oui, se basant sur la directive sur le temps de travail. Si la France applique cet arrêt, le nombre de pompiers volontaires pourrait chuter des deux tiers, selon le colonel Grégory Allion, président de la Fédération nationale.
67% des sapeurs-pompiers volontaires en France sont salariés et travailleurs. Ça voudrait dire que ils devraient demander à leur employeur d'avoir une deuxième activité salariée. Au final, on estime à ce que ces 67% soient non autorisés à être pompiers volontaires. Notre sécurité civile du quotidien serait anéantie.
Les pompiers proposent donc aux candidats aux européennes une nouvelle directive, car la loi française qui consacre leur volontariat ne suffit pas, estime le colonel à Lyon.
Nos arguments trouvent de l'écho. On travaille notamment sur la rédaction de cette directive avec certains et on espère que le gouvernement sera proactif et accompagnera les futurs députés européens et nous permettra avec la fédération de faire en sorte que notre modèle d'engagement citoyen comme sapeurs-pompiers volontaires qui protège les Européens soit préservé dans le temps.
Salarier tous les pompiers coûterait 2,5 milliards d'euros, intenable et pas souhaitable, insiste le patron des pompiers, car l'engagement bénévole permet une société plus résiliente, dit-il.
Ça va sans dire, ça va mieux en le répétant, le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, le ror n'augmente pas le risque d'autisme, plusieurs études l'ont déjà démontré, mais une nouvelle enquête danoise, celle-là portant sur plus de 650 000 enfants le confirme. Les enfants ont été suivis sur plus de 10 ans, Daniel Messager.
Oui, des enfants nés entre 1999 et 2010. Les chercheurs ont comparé le diagnostic d'autisme chez les enfants vaccinés et les non vaccinés et n'ont trouvé aucune différence. Pourquoi faut-il encore une fois prouver qu'il n'y a effectivement pas de lien entre ce vaccin et un risque d'autisme? Parce qu'une précédente étude en 2002, portant elle aussi sur un nombre conséquent d'enfants, 537 000 l'avait déjà démontré. Eh bien parce que la suspicion court toujours. Suspicion qui date d'une étude de 1998 qui ne portait que sur une petite série de cas, 12 enfants seulement, qui souffraient de troubles du développement. Selon leurs parents, ils avaient été vaccinés peu de temps avant ces troubles. Mais, bien que les conclusions de chercheurs n'aient pas été affirmatives, bien que la revue médicale qu'il avait proposée se soit rétractée, bien qu'on ne tire jamais de conclusion d'un si petit nombre de cas, la rumeur avait circulé, relayée par certains médias, et des parents avaient commencé à rejeter ce vaccin. Aucun lien donc, et peut-être que les études peuvent s'arrêter là. La rougeole, en revanche, elle se porte bien. Santé publique France vient juste de publier les derniers chiffres. 288 cas en France, rien que depuis le 1er janvier, 90% sont survenus chez des patients non ou mal vaccinés.
La rougeole se porte bien. Daniel Messager, c'est une ONG de très bonne réputation, le WWF, ou Fonds mondial pour la nature, aurait-il de mauvaises manières? Le site d'information BuzzFeed rapporte ces derniers jours un certain nombre de témoignages selon lesquels, dans sa lutte contre le braconnage, l'ONG ferait appel à des forces paramilitaires usant de torture en Asie et en Afrique où des gens auraient été tués. Et ce ne sont pas les premières accusations du genre. En 2017, une autre ONG, Survival International, avait accusé le WWF de violation des droits humains systématiques et généralisées. Sa directrice en France, Fiorello Longo, au téléphone de Marwa Mann.
Nous, c'est depuis 30 ans que Survival dénonce des abus commis par des gardes forestiers soutenus et financés par les WWF en Afrique et ailleurs. On parle des abus très graves, on parle des gens qui ont été tapés, ils ont été tués, torturés. Et nous, on a tout dit au WWF, on a envoyé les témoignages des victimes, ils nous ont toujours ignorés.
Et ces pratiques mettent-elles en danger l'existence même de certains peuples, notamment des pygmées au Cameroun?
Oui, bien sûr, parce qu'ils sont des chasseurs-cueilleurs. Ils dépendent de la forêt pour vivre. Les gardes forestiers, ce qu'ils vont faire, c'est les empêcher de chasser, les empêcher d'aller dans la forêt, d'une manière brutale, bien sûr. Du coup, c'est vraiment toute une manière de vie, une identité très liée à la forêt qui va être détruite.
Le WWF, dans un communiqué, indique qu'une enquête indépendante vérifiera ces allégations, qu'il prend très au sérieux. Des mesures rapides seront prises, le cas échéant, ajoute l'ONG. Dossier à retrouver sur franceinter.fr. Allez, au cinéma, cette semaine, un film poignant dont nous avons parlé ce matin, Nos vies formidables, un réalisme quasi documentaire sur les addictions. Mais ce n'est pas ce que vous avez retenu, Eva Béton, dans ce rendez-vous du mercredi. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez de deux sorties. D'abord, un film de Singapour, Les étendues imaginaires. Beau titre, très évocateur d'ailleurs.
Oui, de Siu Yua Yeo. C'est un jeune réalisateur de 29 ans, singapourien, qui a eu le Léopold d'Or au festival de Locarno. Et il semble qu'il ait envie, comme beaucoup de cinéastes, de prendre en compte l'évolution de l'endroit où il est né. Il le fait par un mélange des genres de très haut niveau. Singapour gagne des étendues sur la mer en important du sable à bas prix et prospère en faisant venir des ouvriers à très bas salaire des pays voisins. Un travailleur chinois a disparu, un policier en enquête. Donc il y a le contexte social, la trame policière, ça suffirait largement à faire un film, mais il va brouiller les repères en mélangeant le concret, le virtuel, le réel, l'imaginaire. Les ouvriers travaillent sur des chantiers par nationalité en quelque sorte. Là, vous avez les Chinois, puis dans cet autre, vous avez les gens du Bangladesh, dans des conditions moyenâgeuses. On leur prend leur passeport quand ils arrivent, on les tient par un système de dette. Et en même temps, vous avez la modernité. Wang, l'ouvrier qui est disparu de la nuit, allait jouer toute la nuit dans un cybercafé aux jeux vidéo. Alors, on va remonter le temps qui précède sa disparition, mais on ne sait plus si on est dans le rêve éveillé ou la réalité. Dans ce pays, tout le monde est insomniaque et un peu groggy. Et en même temps, on se dit, mais c'est même dans ce pays, c'est absurde de se faire cette réflexion. Et le film vous amène à la faire, où un ouvrier, ça ne compte pas. On enquête vraiment sur simplement le fait qu'il n'a pas pointé. Alors, le mélange des genres est intéressant parce que c'est pas juste un exercice de mise en scène réussi. Ça correspond à ce qu'est ou ce qu'il veut dire de Singapour. C'est un endroit artificiel, construit par les autres, avec une sorte de modernité féroce et absurde.
Alors, un autre film qui fait partie de votre sélection de ce mercredi, sujet au cœur de l'actualité, oui. Le retour de Syrie de Français qui étaient partis rejoindre Daesh. Le film s'appelle Exfiltré, il est signé Emmanuel Hamon.
C'est à partir d'une histoire vraie qui s'est passée en 2015. Une jeune femme part avec son fils de 5 ans, elle dit au revoir à son mari, je vais en Turquie, elle part en Syrie. Elle déchante très vite, elle va réussir à revenir en France, pas grâce à l'aide des autorités, mais de ses proches qui ont des contacts avec les opposants. Il y a la trame du film d'action qui est bien menée, qui a ses défauts, puisque tout le film est sur l'exfiltration. Ça laisse de côté les motivations de cette jeune femme qui est intégrée, qui est assistante sociale. C'est parfois maladroit, mais c'est juste dans ce que ça montre, dans ce que ça dit. Ça dit par exemple que on est influencé par ses copains. Elle retrouve à Raqqa les amis de son quartier, qu'on a une sorte de bonus de prestige quand on fait venir quelqu'un, et que les hommes parfois arrivent à rentrer à partir de Syrie, jamais entend-on jamais les femmes. Donc voilà, le film ne prend pas, il nous amène à vouloir que cette jeune femme qui a déchanté très vite, qui n'a pas commis de crime, rentre, mais il ne prend pas position d'une manière générale.
Deux films très branchés donc sur l'actu et rien sur Captain Marvel, hein, le nouveau blockbuster des studios du même nom.
Mais d'autres personnes
nous
en parleront sur cette antenne, mon cher ami.
Ce n'est pas votre tasse de thé, nous le savons.
Non, pas du tout, on peut toujours. On peut
en sport, le rendez-vous de la journée, c'est ce soir au Parc des Princes. Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit Manchester United, des Parisiens en position très favorable après leur victoire 2-0 au match aller en Angleterre, d'autant qu'ils pourront encore compter sur leur atout numéro 1, le phénomène Mbappé, 20 ans, est déjà bien installé parmi les grands Cédric Guillou.
Il n'en finit plus d'affoler les compteurs. Depuis les blessures de Neymar et de Cavani, Kylian Mbappé tourne à plus d'un but par match, peu importe la compétition. L'international français inspire la crainte des défenses adverses et l'admiration de ses partenaires, le défenseur brésilien Marquinhos.
Ouais, c'est impressionnant parce qu'un joueur à son âge faire ce qu'il fait avec un grand club, avec sa sélection en Coupe du Monde, il prouve sur le terrain la qualité, le talent qu'il a.
Repositionné depuis près d'un mois dans l'axe de l'attaque parisienne, Kylian Mbappé a su prendre ses responsabilités et garder la tête froide.
On est toujours attendu, que ce soit l'équipe, moi aussi. C'est à nous de répondre présent et de prendre nos responsabilités.
S'il a pu être inquiet après les blessures de Neymar et de Cavani, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a vite été rassuré avec le rendement exceptionnel d'Mbappé.
En ce moment, il est un des meilleurs attaquants du monde. Il a une vitesse, c'est très difficile pour défendre. Sa personnalité est extraordinaire parce qu'il montre son fond de marquer chaque entraînement, chaque match.
Et aujourd'hui, 26% des frappes d'Mbappé finissent au fond des filets. C'est mieux qu'Aubameyang, Agüero et surtout Léo Messi. Kylian Mbappé est bel et bien un phénomène.
Des Parisiens qui montent et des Madrilènes qui dégringolent. Battus 4-1 sur leur terrain par l'Ajax d'Amsterdam, ils sont éliminés de la compétition. Le temps.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Attention au vent violent, Elodie Calac.
Un temps bien perturbé aujourd'hui avec de la pluie sur l'ouest du pays jusqu'à l'Aquitaine, au centre, au bassin parisien et au Luxembourg. Du vent aussi. Les pluies deviennent soutenues et orageuses en fin de journée sur la Nouvelle-Aquitaine. Le vent se renforce jusqu'à 100 km à l'heure. Prudence sur les Pyrénées. Le vent peut souffler jusqu'à 130 à 150 km à l'heure, ponctuellement plus. Sur le sud-est, c'est souvent gris, parfois pluvieux, surtout sur les Cévennes. Avec du vent jusqu'à 90 km à l'heure, 90 à 110 attendus du massif central aux Alpes, mais également sur le sud de la Loire, du Rhône et sur l'Isère, parfois même jusqu'à 120. Les températures sont douces, 12 à 19 degrés au nord, 15 à 22 au sud.